Bleu, RCFM.
France Bleu.
Qui est là?
Hal.
Hal qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top. Laissez-moi dire bonsoir.
Ah, pardon.
Vous avez vu ces automatismes?
Non, mais j'étais.
Vous avez raison, vous me rendez humaine.
Oui.
Avant de dire bonsoir à tout le monde, je vous dis bonsoir, Jean-Michel Fraticelli.
Bonsoir.
Merci de m'accompagner bonsoir. Chaque mercredi soir.
Merci de m'inviter.
Puis-je dire bonsoir également à Doumé Mourati qui réalise cette émission? Bonsoir, Dominique. Oh, Doumé. Eh oui, quel bonheur d'être avec lui. Ah, alors, durant une heure, nous allons parler de musique et d'un concert qui aura lieu le 19, c'est-à-dire vendredi prochain, du côté du centre culturel L'Albor, le concert de Diane Blues. Et pour en parler, nous recevons l'un des membres fondateurs de cette drôle d'équipe.
Qui est là?
Bonsoir, qui est là?
Patrick Mattei.
Patrick Mattei,
le vrai, sans sa guitare. Bien
c'est
sûr.
Le cœur serré, ému et vraiment ravi que je vous reçois dans cette émission.
Ben, le plaisir, il est partagé entièrement. Voilà.
Vous avez poussé la porte de cette radio et c'est incroyable comme les gens vous accueillent. D'abord, vous connaissez tout le monde.
Oui, bien que les locaux soient neufs, hein, j'ai beaucoup fréquenté les anciens locaux, donc je connais beaucoup du personnel.
Combien de disques à votre actif? Une quarantaine, on peut dire, comme ça, à la louche?
C'est ce qu'on dit, oui. Mmh. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit, une quarantaine. Je n'ai pas compté, bien sûr.
Combien d'heures sur scène?
Sur scène? Oh là là, là, vous me posez une question, je ne sais pas.
Peut-être plusieurs centaines.
On fait une moyenne de 25-30 de concerts par an. Mmh. Voilà, et puis ça, voilà. On ne compte pas les animations, on ne compte pas le. Voilà.
Alors. On se dit, bien sûr, quand on pense à vous, on pense à ce groupe mythique, Diadéode. Mmh. Et on fait bien d'y penser, parce que toute une génération a été éblouie par cette proposition qui était très originale, de la musique en Corse, mais du rock, avec des propos différents, de l'humour également. Et puis, de ses premières amours, on peut dire, est né Diane Blues avec Marie-Ange Géronimi.
Oui, alors Diadéode, ça remonte à très longtemps.
85, 86.
Voilà, c'est ça, à peu près. Et on était très très jeunes. Et
de 1900, des années 1900.
Voilà, en fait, on écoutait.
Siècle dernier, quoi.
Le siècle dernier, on n'écoutait pas trop les paroles, quoi. Et en fait, c'est en réécoutant les musiques et les chansons, et en relisant les textes, en les retravaillant, d'ailleurs, que je me suis aperçu quand même que
c'était vraiment bien.
Oui, c'est vraiment bien parce que c'est écrit dans un corse parfait avec des jeux de mots et c'est très 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 avant-gardiste comme démarche au niveau d'écriture.
Est-ce que Jean-Baptiste Philippe est toujours dans l'aventure, pas loin?
Jean-Baptiste Philippe, il est aux aguets. Hein. Eh oui. Alors, mais il se décharge un peu de la musique, donc il me laisse faire les musiques et compose. Hein. D'ailleurs, il y a d'autres paroliers qui sont
d'autres auteurs
hein, qui sont sollicités aussi. Ouais. Et qui font des choses extraordinaires aussi.
Parce qu'il y a les morceaux, certains morceaux de Diadéode que vous avez remaniés, revisités.
Ouais.
Il y a des créations pures et dures. Mmh. Il y a des morceaux aussi que vous aimez bien, que vous avez envie de reprendre. Et puis, il y a évidemment vos compos qu'on peut retrouver dans une forme un peu spéciale, le 19, puisque ce sera une sorte de café-concert, de cabaret. On pourra boire peut-être une coupe.
Et manger aussi.
Et manger,
je pense,
un morceau.
Et au niveau de la formation, c'est plus une formation.
Plus de monde.
Voilà, on a voulu faire rester dans un contexte acoustique, c'est-à-dire utiliser un certain nombre d'instruments, hein, bon, la basse évidemment, mais surtout, je dirais, de la steel guitare, du dobro, de banjo aussi, de l'harmonica. Voilà, toute une palette de...
C'est cette guitare allongée
là. Oui, oui, guitare ouais. allongée sur les genoux, parce que le petit Mallory revient de Nashville, il est allé enregistrer avec son papa, et il a ramené ça, donc il est tout content.
Jean-Thomas,
mon filleul.
Mm-hmm. Je suis le... Qui sera sur scène le 19.
Qui sera sur scène le 19 avec... Avec Julia, son amie, hein, qui est chanteuse, hein, qui est professionnelle, hein, l'opéra.
Il y en a marre du népotisme dans ce pays.
Oh, hein. Insupportable.
C'est vraiment. Hein.
Hein, voilà.
Tout le monde vient de ses oui. Hein.
Ils sont bons, que voulez-vous, ils sont bons. Donc, quand ils sont bons, on les garde. Hein.
Marion Gérone, il sera là, rassurez-moi.
Marion, je suis, oui, je pense qu'elle viendra.
Bon, vous m'envoyez ravi. Lorsqu'on pense à vous, les gens qui vous connaissent un petit peu pensent à ce morceau. Il y en a plein d'autres, hein, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais en plus d'être un excellent musicien, d'avoir fait une quarantaine de disques, comme on le disait, Patrick Mathé est un fou de musique, un fou de littérature, un fou de poésie. Et quand on pense à vous, on pense à ce monsieur. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Well, can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Karen, she's a silver sun. You'd best walk away and watch it shining. Watch her watch the morning come. A silver tear appearing now. I'm crying, ain't I? Said I'm gone to Carolina in my mind. Ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whispers something soft and kind. And hey babe, the sky's on fire, I'm dying, ain't I? Said I'm gone to Carolina in my mind. In my mind I'm gone to Carolina. See the sunshine, can't you just feel the moonshine? And ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in the mine. Dark and silent late last night, I think I might have heard the highway calling, geese in flight and dogs a bite. Signs it might be omens say I'm going. Yes, I gotta be going. I'm gone to Carolina in the mine. Now with the holy host of others standing around me, still I'm on the dark side of the moon. And it looks like it goes on like this forever. You must forgive me if I'm up and gone to Carolina in the mine. In my mind, I'm gone to Carolina. See the sunshine low, and can't you just feel the moonshine? Yeah, ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Said I'm gone to Carolina in my mind. I better get myself on home again.
Comme dirait Mallory, je suis bluffé.
Carolina in my mind. C'est James Taylor.
C'est absolument James Taylor.
En direct.
Par contre...
Il y a très longtemps, il avait les cheveux longs. Plein de cheveux,
oui,
un peu comme vous avant.
Voilà, il n'en a plus.
Patrick Mathé.
Il n'en a plus. Je suis épaté quand même, hein, parce que c'est la première fois, j'ai tous les albums de James Taylor, c'est la première fois que j'entends cette version.
Vous ne la connaissiez pas, où il siffle en direct.
Oui, il siffle en direct.
Et il est très timide, je vous montrerai la vidéo. Il est très intimidé, il met beaucoup de temps avant de commencer la chanson. Il parle beaucoup, un peu vite, on sent qu'il y a une grosse pression. Et puis il démarre, il siffle un peu, il se rate au début. Et puis, il continue.
C'est dur de siffler sur scène.
Non, mais c'est pas le fait de... Oui, peut-être.
Ah oui, c'est dur.
Peut-être que c'est la pression aussi du monde. Et voilà, de ce constat, il est tout jeune. Tout jeune, tout jeune.
Avec les cheveux longs.
Oui. Avec les cheveux longs. 17h16, Patrick Maté est notre invité jusqu'à 18h dans Toc Toc.
Toc Toc, l'invité mystère.
Vous avez un invité qui est avec nous.
Oui.
Dont la voix est grimée. Vous pouvez lui poser toutes les questions que vous désirez afin de deviner de qui il s'agit. Bonsoir, invité mystère.
Bonsoir.
Ça n'est pas la première fois que vous jouez à ce jeu, invité mystère. Et je vous en remercie. Et je vous en remercie. Maintenant, j'ai l'impression qu'à chaque fois que je vous parle, c'est comme ça, avec cette voix-là. Alors, Patrick Mattei, vous pouvez poser les questions que vous voulez à cette personne.
Invité mystère, est-ce que... Il faut que je le tutoie, évidemment, parce que je le connais.
Oui, mais vous ne le tutoyez pas forcément dans la vie.
Pas forcément dans la vie. Alors, est-ce que vous êtes musicien ?
Je suis un peu musicien, oui. On peut dire ça.
Ah.
Alors, moi, je ne sais pas qui c'est,
oui,
mais je l'ai reconnu.
Donc, il a reconnu lui aussi.
Il est fort. Est-ce que vous chantez ? À part sous la douche, bien sûr.
Je chante aussi de temps en temps.
De temps en temps, oui.
Vous écrivez aussi.
Ça m'est arrivé.
Vous composez aussi.
Il a deviné Jean-Michel alors qu'il ne savait pas de qui il s'agissait.
Je crois, oui.
C'est incroyable.
Mais un petit peu, oui.
Vous avez trouvé... Attendez, Patrick, qu'est-ce que vous avez trouvé, vous ?
Je commence à avoir des doutes.
Vous avez une idée ?
J'ai une idée, oui.
J'ai envie de vous dire, lancez-vous.
Est-ce que vous aimez le soleil ?
Vous connaissez quelqu'un qui n'aime pas le soleil ?
Est-ce que vous aimez la plage ?
Bizarre, cette question.
Non.
Michel Mallory.
Voilà. Je l'ai reconnu tout de suite.
Bonsoir Michel.
Bonsoir à vous.
Bon adieu Miguel.
Ma denrée. Équipe faille.
Je suis dans les griffes de Marie Bonzi.
Ah, si tu es dans les griffes de Marie, il peut rien t'arriver.
Alors, racontez-nous cette rencontre entre vous deux. Je crois que vous l'avez vu jouer au Fanal et à Bastia. Est-ce que vous vous en souvenez, Michel ?
Oui, je l'avais vu jouer au Fanal à Bastia, mais à une époque, je me rappelle que je cherchais un guitariste, parce que je cherchais un guitariste pour jouer avec moi. Donc, il y avait des tas de guitaristes qui étaient venus chez moi, en Balagne, en se vantant d'être les plus grands, les plus beaux, les plus forts. Et puis, il y en a un qui est arrivé chez moi qui m'a dit « Moi, je suis pas très bon, les solos, je sais pas les faire. » Enfin, il s'est déprécié, je l'ai engagé immédiatement.
Je savais faire les chœurs quand même.
Oui, je l'ai engagé immédiatement parce qu'il avait aucun ego. Je trouvais qu'il jouait très très bien de la guitare acoustique et notamment... tout à l'heure, vous avez écouté une de ses idoles, donc James Taylor. Il avait un petit côté James Taylor dans le King, et ça m'a beaucoup touché. Et puis après, il y a eu la rencontre avec l'homme qu'il est, parce que maintenant, Patrick, ça n'est même plus un ami. Je veux dire, on a dépassé ce stade très largement. Il fait partie intégrante de ma famille.
Donc vous avez aimé le son de ce garçon à la guitare et son humilité. Moi, lorsqu'il m'a raconté l'histoire, il m'a dit « Franchement, j'étais pas terrible à la guitare à ce moment-là. Je me sentais pas du tout à la hauteur. Vous vous en souvenez de ça ? Vous vous sentiez vraiment, Patrick Mattei, pas assez bon pour jouer avec Michel ? Ou qu'est-ce que...
C'est quand on est jeune, on n'a pas trop confiance en soi aussi. Et puis je sais qu'il y avait des musiciens talentueux qui jouaient avec lui. Donc c'était un peu flippant quoi de vivre une aventure. Enfin j'avais envie de le faire et puis mais d'un autre côté je posais des questions quoi. Est-ce que je pensais que c'était difficile quoi.
Alors il y a eu cette rencontre musicale et la rencontre humaine assez vite. Ça a été un peu comme un coup de foudre entre vous.
Oui,
Michel Mallory.
Ça a été très vite parce que j'ai retrouvé chez Patrick tout ce que j'aimais. Dans la corsitude, dirais-je, quelqu'un de profondément attaché à sa région, donc la Castagniche, d'attaché à sa famille, à son village, à ses amis, à ses traditions, et en même temps quelqu'un tourné vers l'extérieur, c'est-à-dire qui regardait bien au-delà musicalement. C'est pour ça qu'il avait cette passion pour James Taylor et pour beaucoup d'autres. Et puis, en même temps, il faut pas oublier une chose, c'est que Patrick chante et chantait. Et quand il faisait les chœurs, quand il faisait les chœurs avec moi, c'était quand même quelque chose de formidable. C'est un merveilleux, absolu merveilleux chanteur, quoi.
Là, il dit qu'il sait plus chanter, hein. Ne veut pas.
Alors. Et vous, Patrick, qu'est-ce que vous avez trouvé chez Michel ?
Michel, c'est l'amitié, hein, comme il dit. Je ne peux pas dire que c'est mon grand frère, ni mon père. C'est fait partie de la famille, quoi. C'est la famille, c'est un ami intime, un ami proche. Il m'a appris beaucoup de choses, hein, dans la vie, hein, tout simplement, dans la musique. Et puis après, on est parti en tournée, et puis surtout les studios d'enregistrement, tout est technique pour enregistrer, pour les prises de son, de guitare.
Mais tout ça, c'est à ses côtés.
Ouais. Ah oui, ça. Et puis plein d'autres choses, hein.
Et aujourd'hui, le fait que Jean-Thomas joue à ses côtés, et ça, c'est voilà, c'est la continuité, c'est le relais, c'est son filleul. Ça, c'est beau, non, Michel ? Comment vous le...
Ah ben c'est plus que beau, c'est-à-dire que c'est ce qu'il y a entre Jean-Thomas
votre fils, hein, donc.
Et Patrick. Mmh. Ce qu'il y a entre Jean-Thomas et Patrick est tout simplement fabuleux, parce que Patrick a passé le relais à Jean-Thomas et. Et en même temps, bon, je sais l'affection qui les unit tous les deux, et je sais aussi ce que Patrick a apporté à Jean-Thomas. Nous étions à Nashville avec Jean-Thomas il y a très peu de temps. Nous étions en train d'enregistrer avec peut-être les meilleurs musiciens du monde. Et puis, et Jean-Thomas me disait, tu te rends compte si Parrain était là ? et oui, parce que c'est vrai que c'était des moments précieux. Et que évidemment que j'aurais voulu partager, Jean-Thomas aussi, ces moments-là avec Patrick, parce que là c'est vraiment notre, comme on dit ça aujourd'hui ici, notre kiff. Voilà, c'était vraiment des musiciens exceptionnels dans un studio exceptionnel. Et Patrick nous a manqué à Jean-Thomas et à moi indéniablement.
Eh oui.
Oui, mais il l'aurait jamais laissé rentrer sur le territoire américain.
Merci beaucoup. Merci Michel Mallory d'avoir été avec nous ce soir. Et on va continuer à parler de vous à un moment donné dans cette émission, forcément, parce que figurez-vous, juste pour que vous le sachiez, lorsque j'ai demandé à Patrick Mattei de choisir une année importante, une année charnière dans sa carrière professionnelle, dans sa vie de musicien, il m'a dit 1990 parce que c'est l'année où j'ai rencontré Michel Mallory. Vous voyez ?
Donc
la boucle est bouclée. Nous parlerons à nouveau de vous et on vous souhaite une très très bonne soirée. Merci d'avoir été avec nous.
Allez, je vous embrasse tous, à très bientôt.
Ciao, Olivier, à bientôt.
Ciao. Bisous, ciao.
Et à bientôt donc dans Toc Toc, puisqu'il est habitué à être l'invité mystère.
Il vient
de temps en temps toquer à la porte de cette émission. On écoute un extrait de Diane Blues et on rappelle à nos auditeurs qu'on vous retrouve le 19 avril avec Marie-Ange Géron.
Après-demain.
Et ouais, vendredi.
Déjà.
Avec Jean-Thomas Mallory, sa compagne.
Julia Jérôme.
Qui est chanteuse.
Musicienne. Multi-instrumentiste aussi.
Et il faudra réserver parce que forcément la jauge sera un petit peu réduite de l'Albor, oui. Puisqu'il y aura des tables, des chaises, il y aura une forme café-concert.
Absolument, ils ont transformé la salle en café-concert, je pense que ça risque d'être très sympathique.
C'est Marie-Ange qui fait la cuisine ?
On ne peut pas tout faire. Vous savez que les hommes aussi font la cuisine.
Oui, je sais.
Je vous le dis comme ça.
Mais je cuisine.
Oui, c'est ça.
So I love for you mi scroccolo in beja lida le degabida sopra più grettia santo dare do alla rettia trabasso così d'aneta fosco so quale tu sei so quale tu sei non ti conosco mi squaglio tous à tous. Trabasu guzi dan eta fosku, so quale tu si, so quale tu si monte gonosco.
Un enregistrement RCFM, que ça ne m'étonnerait pas.
Ça sonne.
Je pense qu'il s'agit d'un extrait d'Incante de Christophe Zagal, il y a Diane Blouse, Marion Géronimi et notre invité Patrick Mattei à la guitare, et ça sonne, et le son, on vous reconnaît mais en mille. Mais franchement,
vous avez de la chance, je me suis pas reconnu.
Là, ouais, ça. C'est ça. Mais non, mais pour les gens qui vous écoutent depuis des années comme moi, je trouve que voilà, vous avez votre patte, votre signature, et on vous reconnaît entre mille.
C'est gentil.
Il y a Knopfler et Patrick Mattei au niveau de.
Knopfler, je le reconnais pas moi, je sais pas.
Knopfler, je tombe à genoux quand j'écoute Knopfler, hein, quand je le vois.
C'est vrai.
Oui.
Alors, quels sont les guitaristes justement qui vous.
Ben, il y a les guitaristes, c'est puis Mark Knopfler par exemple, ça c'est
ouais, ça on l'a dit.
Mark Knopfler,
ouais.
Eric Clapton.
Oui.
Et puis
Joe Bonamassa.
Oui, aussi j'aime beaucoup Joe Bonamassa.
C'est moins son truc.
J'aime beaucoup Joe Bonamassa, mais j'aime beaucoup aussi le guitariste de Eagles, Joe Walsh, qui s'est présenté à la présidence des États-Unis.
Il vous faut en fait un son rock avec un fond de blues. C'est ça, il faut des mecs qui puissent jouer du rock mais qui ont un son un peu roots, un peu blues. C'est ça,
oui,
que vous aimez.
Oui.
Ouais. Les Dobro par exemple.
Ah, Dobro, oui, ouais.
Ça c'est quelque chose qui vous
C'est quelque chose qui me plaît beaucoup.
Vous avez beaucoup de guitares ?
Pardon ?
Vous avez beaucoup de guitares ?
3 6 8 10.
C'est vrai ?
Oui. Pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Hein. Il y en a qui en ont plus. Hein.
Mais c'est au service du son ou il y a aussi ce culte de l'objet ?
Alors, c'est au service du son, parce qu'à l'époque où je faisais beaucoup de studio, c'était très intéressant. C'est pour ça d'ailleurs j'en ai fait beaucoup, hein, de séances de guitare. Parce que d'abord, moi, ce que j'aimais, c'est mélanger les différentes sonorités. Pour tel morceau, on essayait plutôt ça. Et souvent, les gens qui n'y connaissaient rien en guitare, ils acquiesçaient pour telle ou telle solution, parce que c'était tellement évident. Hein. Alors, quand on est comme ça, quand on entend une guitare, on l'entend pas comme on l'entend au studio. En studio, on entend vraiment toutes les qualités de la guitare, tout ce que l'essence de bois peut produire au niveau sonore, et tout ce qu'elle peut apporter à la chanson. Alors il y a certaines guitares, certaines essences de bois, mais qui se mélangent difficilement avec tel style de musique, etc.
Donc il est heureux d'avoir une palette large.
Oui, pour un néophyte, une guitare, c'est une guitare. Quoi.
Oui, mais sauf que quand on est en...
Il faut vraiment avoir l'oreille.
Oui. Ah ben, en studio, on n'a que ça, on n'a que des oreilles, hein, en studio. Hein.
J'aime la rudesse.
Et vous arrivez, non mais, vous arrivez
Patrick,
à jouer rien qu'avec les oreilles.
Moi, j'aime la rudesse de Jean-Michel. J'aime
qu'est-ce qu'il a encore dit? J'ai pas suivi.
Non, c'était parce que c'est un garçon très fin. Donc, pourquoi avez-vous choisi. Mais rude. Pourquoi avez-vous choisi la forme cabaret pour ce concert de vendredi?
Alors là, il faudrait peut-être demander à Marie-Ange, mais je pense que ça donne un côté, vu la formation qu'on a choisie.
Oui.
Le côté acoustique, ça donne un aspect un peu plus familier, moins intime,
de distance avec le public,
moins de distance, un peu moins austère,
ouais.
Et puis ça, c'est plus convivial. Mmh. Je pense que ça correspond un peu avec ce qu'on fait, les textes, la musique, le côté acoustique, et surtout les présentations de Marie-Ange qui sont très très humoristiques, comme vous pouvez vous en douter.
Évidemment.
Vous êtes enseignant également.
Oui, ça m'arrive, oui.
Non, mais c'est intéressant parce que parallèlement à la musique, vous avez un cursus universitaire.
Oui.
Et alors, j'aimerais comprendre comment ça s'est marié, combiné, comment les deux ont été possibles. Alors, quand on entend que vous avez participé à beaucoup de concerts, beaucoup d'albums.
Oui. Ben, j'ai d'abord une formation musicale. Bon, j'ai pas de diplôme en musique, mais j'ai une expérience, certaines expériences musicales. Donc, ce qui m'a permis d'enseigner dans les collèges en musique. Je faisais quelques heures. Et puis ensuite, on est venu me demander si c'était bien vrai que j'avais 5 ans d'études littéraires.
C'est vrai ?
Un diplôme, j'ai un master d'études littéraires.
Mais moi, ça, je le sais, par exemple.
Et donc, oui, moi, j'avais oublié à l'époque. Donc, on me l'a rappelé. Puis on m'a dit,
sur le tard.
On m'a dit qu'il y avait des heures supplémentaires, des heures à faire en français, si ça m'intéressait.
Ouais.
Je l'ai fait, c'était pas du tout facile, parce que c'est vraiment un métier qui est à la fois fascinant, hein, mais c'est pas facile.
Mais il a fallu se remettre au travail.
Ah oui. Et puis, je pense que, à mon niveau, il faut se mettre au travail régulièrement, hein, parce que les cours, ça s'improvise pas, il faut préparer, il faut lire, il faut. Voilà, c'est tout un travail. Donc moi, enseignant.
Moi, je vous ai connu amoureux des mots, de la littérature, de la langue française et même du corse. Est-ce que vous écrivez?
Non.
Non, mais genre en cachette.
Même pas.
Ouais, c'est ça.
Il y a eu un petit doute. Il y a eu une petite hésitation.
Ça dépend à qui.
Mais vous savez que les grands auteurs, femmes comme hommes, ont commencé par écrire des lettres d'amour ou des poèmes d'amour. Oui, ça marche comme ça.
Eh, peut-être que là, vous me donnez une idée. Peut-être que je vais.
Bon, allez, il faut aller fouiller dans ces tiroirs.
Faire une compilation.
17h34.
C'est une lettre de motivation.
je suis sûr que vous écrivez des lettres, Jean-Michel Fratici.
Dans plein, oui.
En tout cas, il y a beaucoup de dames.
Vous allez dire des bêtises, arrêtez.
Vous écrivez des lettres. 17h34 sur RCFM.
Toc Toc, c'est son année.
C'est pas son émission à Jean-Michel Fratici, c'est celle de Patrick Mathéi. Mais je peux vous dire que le nombre de femmes qui me demandent comment il est en vrai, Jean-Michel Fratici, avec cette voix magnifique.
Je le cache.
Je dis, il fait de la radio.
C'est un physique de radio.
Il n'a pas intérêt de parler mal de lui.
Non, pas du tout. Vous
allez vous attirer les foudres.
Alors, quand je vous ai demandé de choisir une année, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez choisi l'année 1990. C'est l'année où vous rencontrez donc Michel Mallory, qui était votre invité mystère. Vous auriez pu choisir également l'année 1993, parce qu'alors là, mais c'est une épopée, tel Ulysse, vous partez sur les routes, et notamment au Canada, avec Pedro Guelfucci, où vous vous rendez compte que là-bas, c'est une star absolue. À deux reprises, vous êtes parti pour deux séries de concerts.
Juillet 93 et novembre 93. Hein. Alors, il y avait Bojé Igor.
C'est vrai.
On était nombreux sur la tournée, et on a fait tout le Québec, toutes les villes du Québec, et le plus gros festival, l'un des plus gros festivals de jazz du monde, le Festival de Montréal. Je ne sais même plus qu'est-ce qu'il y avait comme groupe, mais c'était fabuleux. Mmh. C'était fabuleux.
Et quand vous entendez ça, par exemple, outre le fait que ce soit l'ouverture de la matinale de RCFM...
Là, je vais vous dire quelque chose. C'était les applaudissements à n'en plus finir au début du morceau. Et c'était standing ovation. Moi, j'ai écouté dans toute la tournée du Québec, un peu moins peut-être au mois de septembre, au mois de novembre, mais en l'été 93, il fallait que Pedro intervienne pour arrêter les applaudissements. chaque fois c'était la folie.
Donc impressionnant.
Ah ouais ouais. Nous on était derrière et on venait voir.
Et quand on est amoureux de sa Corse, de sa Castagniccia comme vous, et amoureux de la scène, de la musique, c'est vivre un truc exceptionnel que de vivre.
Exceptionnel.
Une aventure pareille.
Exceptionnel. Hein. D'abord, on a parcouru le Québec sous la chaleur, et puis après, sous la neige. Et puis, les salles étaient complètes. Et c'était une aventure extraordinaire, hein, avec le groupe Voyager Ego, Sega Pedro et tout ça.
Alors, une aventure humaine.
On arrivait dans les hôtels, on allumait la télé, on voyait Pedro avec la violoncelliste à la télé. On arrivait dans. On arrivait dans l'équivalent des Fnac, ouais. Des Fnac ici. Ben il y avait Pedro El Fucci avec Corsi, et derrière il y avait Phil Collins, Sting
sûr,
et compagnie. Ça je l'ai vu. C'est pas des blagues. Hein, je l'ai vu.
Est-ce qu'il y avait cette fierté aussi de se dire que la Corse était exportée ou on n'y pense pas à tout ça?
Ben oui, on est fiers, hein, on est fiers, mais bon, sur le moment on n'y pense pas trop parce qu'on est concentré sur le spectacle, mais c'est comme un rêve. Hein. Après, quand on y pense, c'est comme un rêve.
Alors évidemment, quand on pense à Patrick Mattei, on pense à Diane Blues, on pense au concert de ce vendredi au Centre culturel L'Albor ou avec Marie-Ange Geronimi, qui aurait aimé être là. Elle n'a pas pu. Elle avait vraiment envie d'être avec vous ce soir, mais c'est impossible. Mais en tout cas, je sais qu'elle nous écoute. On pense à James Taylor. Moi, je pense au Fanal. Je pense également à Pedro Guelfucci. Et quand je pense à vous, mais alors pour moi, c'est impossible de faire autrement. Outre ce physique de jeune premier que vous avez, je pense à ça.
Physique de jeune premier. Elle est déchaînée. Ma jolie, how do you do? Mon nom est Jean-Guy Thibault. I come from East of Gatineau.
C'est énorme. Daniel Lanois sur scène, c'est énorme. Gros producteur de musique.
Ah oui, producteur de YouTube, ouais. Producteur de. C'est monstrueux ce qu'il a fait. Hein.
Eh bien, moi, c'est vous qui me le faites découvrir au Fanal. Hein.
Elle était toute petite, toute jeune, la Marie Bronzy.
Allez, on écoute la suite.
Ma jolie Louis, tous les matins au soleil, I will work till work.
Crois-moi, crois-moi pas. Quelque part en Alaska.
Alors là, c'est pas Beau Dommage, mais c'est Félix Leclerc.
Qui s'ennuie en maudit.
Mais je trouve que l'accompagnement en guitare, il vous ressemble. C'est pour ça que j'ai choisi ce morceau-là et pas celui de Beau Dommage. Et c'est évidemment La Complainte du Phoque.
En Alaska.
En Alaska.
Et non pas à Popolaska.
Et non pas à Popolaska, comme on a pu l'entendre plein de fois. Mais que se passe-t-il avec le Québec, le Canada et vous, Patrick?
Ben, je sais pas, parce que en fait, j'y suis allé une dizaine de fois.
Hein,
une dizaine de fois. Deux fois avec Pedro. Après, j'y suis allé pour des albums, d'autres albums. Je sais pas.
Mais c'est des chansons que vous aimez, que vous chantez.
Ah oui, ça, les chansons québécoises. Et puis les Québécois, ils sont comme ils sont comme les Corses, quoi. Ils ont une identité forte et
une authenticité.
Voilà, ils sont proches de la nature. Ils sont comme nous. Hein. Ils sont fiers. Ils sont voilà.
Ah, les voici. Tiens, Beau Dommage.
Des ballons sur son nez.
Qu'est-ce qui vous émeut dans ce type de chanson? Moi j'adore. Mais j'ai grandi en vous écoutant chanter ça. Donc
Déjà, je vous dis, quand on est jeune, on chante parce que les chansons nous plaisent, mais on comprend pas trop. Hein, que ce soit en français, en anglais, on s'en fout des paroles.
Vous faites bien l'accent.
Plaisante, moi, je fais vraiment bien l'accent. J'étais bien là avec Fraticelle, on était très bien ici. Et je fais ça aussi des fois.
À l'époque, vous étiez avec Tchétché.
Tchétché, oui, Tchétché Pêche. Et. Ah, dimanche soir à Châteauguay.
Bravo!
C'est marrant parce qu'on a joué à Châteauguay, on a traversé toutes ces villes-là. C'est beau. Je suis dans le vieux Montréal. Je me baladais. Je me souviens, on était en studio.
Ouais.
Je suis allé plus d'une dizaine de fois. Quand j'arrive à Montréal, j'avais l'impression d'arriver à la maison. Et je me suis baladé souvent. On parlait sur les quais, là, pas loin de la rue Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Et je ne sais pas si ça a changé depuis, mais c'est vers 2h, 3h du matin, sous la neige. C'est vraiment c'est un pays qui est c'est des gens paisibles, c'est un pays qui est paisible, ils sont très très lents, très très lents. Moi je me souviens rentrer dans les pharmacies parce qu'on avait des problèmes, comme tous les chanteurs, des problèmes de gorge. Ils sont très très lents, ils vous expliquent tout. Les gens ils sont derrière, ils attendent un quart d'heure, 20 minutes, sans.
Ah, il y a un changement.
Ah. Alors on rentre à la maison.
Là. Home sweet home.
Dia de Oda, évidemment. Bon, on est un peu dans la nostalgie, hein, là.
C'est vrai, c'est
c'était
vrai,
notre hein. Petit moment de nostalgie, voilà. Des chansons qu'on a aimé vous entendre jouer, chanter, Patrick Mathieu. Voilà, on avait envie de vous faire un petit clin d'œil. Pour cette année 1990, que s'est-il passé, mon cher Jean-Michel Fraticelli?
Mois de juillet 1990, à Ajaccio, souvenez-vous, il s'est passé quelque chose.
Hein. Ah ouais, sûrement.
Ajaccio.
Oui.
Ah, sûrement.
Sûrement, hein.
Sûrement, oui.
Eh bien, Jacques Lang venait, et il venait pour ça.
Quand on arpente le musée des Beaux-Arts d'Ajaccio, une sensation d'immensité nous surprend. Plus de 500 œuvres sont exposées au Palais Fesch. Les plus anciennes datent du XIVe siècle, ce sont les peintures des primitifs. Une collection qui a traversé les époques jusqu'au XXe siècle. Une très large gamme de choix pour les amateurs d'art, avec comme pièce maîtresse la Vierge à l'enfant soutenue par un ange de Sandro Botticelli.
Il te plaît ? Ah, tu as du goût, c'est bien.
Le tableau a voyagé jusqu'au Japon le temps d'une exposition. L'œuvre de jeunesse du célèbre peintre est très prisée par les visiteurs.
Ils ont aussi la chance de voir un Titien, un Poussin. C'est pas donné à toutes les villes de province d'avoir ces artistes-là. Et puis au-delà de ça, c'est un très grand musée. Il y a de nombreuses pièces qui se succèdent, il y a plusieurs étages, il y a des collections différentes.
Parmi les incontournables, il y a donc l'homme aux gants de Titien et son regard qui ne laisse pas indifférent. Et l'Eda est le signe du fameux peintre vénitien Paul Véronèse. La plupart des œuvres du musée des Beaux-Arts d'Ajaccio viennent de la collection personnelle du cardinal Fesch. L'oncle de Napoléon Bonaparte possédait 16 000 tableaux. Il en a offert environ 1000 à la ville d'Ajaccio.
Voilà, c'était un reportage de nos confrères de Viasté.
Donc 16... quand vous dites qu'il s'est passé quelque chose, c'était l'inauguration.
C'était l'inauguration, le 9 juillet 1990, avec la venue de Jacques Lang.
Palais Fesch, musée des Beaux-Arts.
Vous l'avez visité?
Non. Mais je vous promets que ma...
Vous n'auriez pas pu mentir pour les besoins de l'émission.
Je suis comme Marie Brandine, je ne sais pas mentir.
Mais on ne voit pas le nez qui s'allonge à la radio. C'est pas
drôle. Oui. On entend la voix.
Mais allez-y, parce que c'est absolument exceptionnel.
Oui.
Vraiment, ben oui. Vraiment. Vous y êtes déjà allé, Jean-Michel Fratici?
Non, bien sûr. Oui, je suis allé. Alors, dites-moi.
Ah, quelle émission.
Oui. En dehors de cet événement hautement culturel, il y a la pub qui a marqué les années 90. Écoutez. Ben alors.
Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Papa, comment on fait les bébés?
Eh bien, c'est tout nouveau. C'est une bouteille de lait longue conservation, UHT. Elle conserve au lait tout son bon goût. Et en plus, elle se revisse.
L'essentiel est dans la selle.
Elle avait marqué cette pub. Ça. Voilà, oui,
formidable cette publicité. Vous en souvenez? Pas du tout.
Il regarde pas la télé.
Vous savez que cette émission n'est pas pour vous. Si vous n'êtes pas un petit peu nostalgique, cette émission ne peut pas vous plaire.
Ah, je suis à fond dans la nostalgie, ça se voit d'ailleurs.
Hein. Vous ne pensez pas que
c'est une forme boiteuse de la mémoire, comme dit par exemple Jean-Claude Acquaviva. Il dit, il faut se méfier de la nostalgie, c'est une forme boiteuse de la mémoire.
Non, moi je pense que la nostalgie, ça, au contraire, ça fait revivre. C'est quelque chose qui fait revivre. Quelque chose qui est passé et qui on le fait revivre avec nos sentiments, avec nos mots, avec nos expressions, faire revivre ce qu'on a envie, ce qui a jamais disparu.
Non, mais vous avez d'un côté le souvenir, mais vous avez de l'autre côté la nostalgie. C'est pas tout à fait la même notion. philosophiquement
c'est
parlant.
C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Non, mais la nostalgie, c'est lorsqu'il y a des moments, de latence et qu'il y a en effet un regret.
C'est le souvenir du souvenir du temps passé avec.
Mais moi, je trouve que ça soulage. Moi, je trouve la nostalgie. Je suis un peu comme Patrick. Moi, j'aime bien.
Mais moi aussi.
Ça, j'aimerais bien le savoir avec plus de précision.
Et tant de moments de nostalgie,
comme dirait le prophète. Eh oui. Le plaisir de travailler avec Marie-Ange. On n'en a pas beaucoup parlé, mais vous vous éclatez quand même tous les deux.
Ah oui, moi je m'éclate, mais elle, je ne sais pas, parce que... Non, elle a travaillé dur. Hein. Je pense qu'elle a beaucoup souffert là-dessus, sur ce projet, parce qu'il a fallu réinterpréter les textes.
Ouais.
Il a fallu les rythmer différemment. Parce qu'ils étaient rock et binaire, donc il fallait les rendre ternaire, c'est-à-dire les ralentir en ternaire, et donc il fallait phraser d'une certaine façon, chanter le blues, il fallait pas rajouter des notes. Alors c'était très très difficile, entre moi qui était très tatillon là-dessus, et Jean-Baptiste Philippe qui était aussi tatillon sur la prononciation. Voilà, en tout cas...
Donc vous l'avez embêté, c'est ça, tous les deux ?
On l'a embêté, mais gentiment, mais là, elle a une force de caractère et de travail, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Moi, je me demande où est trouvée l'énergie. Parce que ce qu'elle a fait, ce qu'elle a à retenir, toutes les petites nuances, évidemment, comme tout travail, on essaie d'abord de défricher le gros, ce qui ne va pas, et ensuite, on va en reprenant les morceaux, les thèmes, on s'attache aux détails, et il faut les retenir, tout ça. Moi, je note, musicalement, je note ça sur un bout de papier ou sur une tablette, et j'ai ça devant pendant le concert, mais elle a rien, elle a tout dans la tête, et c'est pas facile. Hein.
C'est combien d'heures de répétition un spectacle comme ça?
Ça fait un moment qu'ils jouent tous les deux.
Sincèrement, nous, on a travaillé, Marie-Ange et moi, pour vraiment que ça soit au point, tous les deux, on a travaillé un an et demi.
Oui.
Régulièrement, toutes les semaines. Voilà. Je parle du travail, au départ sur la matière première. Hein.
C'est elle, initialement, qui vous propose le projet?
Oui. Je me souviendrai toujours. J'étais dans la voiture, le téléphone sonne. J'ai pas répondu, bien sûr.
Vous aviez du mal à régler votre siège?
Non. J'ai répondu avec...
le Bluetooth, oui.
Bien sûr, évidemment. Évidemment.
Vous aviez de la voix, ce
moment-là? Et là, elle me dit, Coco, ça te dit pas de faire du blues? En fait, elle avait déjà pris les dates et tout, tu vois.
Oui, d'accord.
Et j'ai dit oui, et voilà. Donc après, à partir de ce moment-là, il a fallu travailler.
Mais vous avez dit oui tout de suite, sans hésiter.
Oui.
Pourquoi ?
Parce que, d'abord, ça me fait plaisir avec Marie-Ange, et puis...
En plus, elle l'a menacée, donc...
Elle avait son projet. Et je trouvais l'idée assez intéressante de travailler sur une matière première qu'on avait déjà, qu'on connaissait déjà. Voilà. Et ensuite, on est parti, on a fait une mini tournée sur le continent. On est parti au jazz club de Grenoble. On a fait tout ça. On a fait Pigne. On a fait des résidences et c'était très très bien, quoi.
Alors le public qui la connaît comme comédienne, mais qui ne la connaissait pas dans Dia de Ode, qui ignorait qu'elle chante et qu'elle adore chanter. Elle a même donné des cours de chant. Mmh. Comment il réagit quand il la voit sur scène en train de chanter? Il y a des gens qui sont surpris encore?
Non, pas du tout. Je pense que c'est
naturel.
Oui, je pense que c'est naturel parce qu'ils ont sûrement l'habitude de la voir à la télé. Ouais. Donc, si la voit sur scène, c'est une forme de, c'est une autre forme de spectacle, je dirais. Et ils sont habitués, quoi. Ça a l'air d'être familier pour eux. Et puis ils accrochent. Même s'il a notre démarche, c'est une démarche un peu de je dirais, c'est pas prétentieux, mais je veux dire, c'est une démarche de plus de jazz club que de spectacle. Un grand spectacle, vous voyez ce que je veux dire.
C'est plus d'où les tables et les chaises. Donc là, vous répondez à ma question de tout à l'heure.
Et c'est vrai qu'on est passé dans des clubs de jazz,
ouais.
Et on a fait du blues, quoi. On a fait du blues en Corse, un club de jazz. Donc c'est plutôt un public. Ça s'adresse plutôt à un public restreint, de spécialistes, de musiciens. On a fait des masterclass. On a fait des masterclass de théâtre. J'ai fait des masterclass de guitare, etc. Donc c'est vachement intéressant. Ça vous déporte assez intéressante.
Mais quand vous êtes partis tous les deux.
Oui.
Et faire des masterclass, vous de guitare,
oui,
et elle de théâtre.
De guitare. Et elle de théâtre. Et après, à la fin, on a fait deux spectacles. Grenoble, on a fait ça, deux spectacles.
Ah ouais, c'est formidable ça.
Et bon, après les résidences à Pigne, on a fait Pigne, on a fait Cargès. Et voilà, donc c'est.
Mais ce concept cabaret avec à boire et à manger, ça peut être pérennisé?
Pourquoi pas?
Pourquoi pas.
Faut trouver des lieux après.
Faut trouver des lieux.
Voilà, c'est pas facile.
Absolument, des structures où la chose est faisable.
Est-ce que vous parlez sur scène?
Non, jamais.
Vous n'avez pas envie ou...
Non, je me concentre...
Parce que vous avez l'habitude de la scène.
J'ai passé ma vie à accompagner les chanteurs. Je me suis régalé à accompagner les chanteurs. C'est un travail, comme je dis à tout le monde, à tous mes élèves aussi que j'ai en musique. C'est un travail d'être dans l'ombre, comme c'est un travail d'être sous les feux des projecteurs. Pour un chanteur.
Mais elle vous interpelle, j'imagine.
Ah oui, bien sûr qu'elle m'interpelle.
Votre présence,
elle voudrait que j'en fasse davantage. Oui. Mais petit à petit, d'abord, je me consacre à ma partie, et j'essaie de bien la maîtriser, et puis ensuite, je...
Mais elle vous donne des conseils de présence scénique?
Elle n'a pas intérêt de me donner des conseils. Bien sûr. J'espère qu'elle va m'en donner, bien sûr.
Non, mais sérieusement.
En fait,
vous restez dans votre partie.
En fait, voilà, Marie-Ange, elle est très tyrannique, parce que...
Marie Bondigny aussi.
Voilà, elle bouge beaucoup sur scène, elle parle beaucoup. Il n'y a pas que sur scène qu'elle parle. Et en plus, nous les musiciens, on est parqués sur des chaises, et donc on est derrière un pédalier et devant un ampli, et puis c'est tout, quoi. Voilà, elle nous demande de jouer et c'est tout. Et c'est elle qui anime le show. C'est pas vrai, Marie-Ange, elle nous entend, c'est pas vrai.
Il n'empêche que c'est vous qui êtes là ce soir.
Oui, c'est moi qui suis là.
Comme invité. Ouais. Ouais.
Voilà.
Après ce que vous venez de dire, elle est devant la porte de la radio avec une massue.
Non mais, on avait envie que vous soyez notre invitée, mais c'est... Marie-Ange Desrosiers, il l'a souhaité très fort.
C'est très gentil, je sais, c'est très gentil, et je suis toujours ravi, et c'est un bonheur pour moi de venir... Ouais.
Mais vous avez du mal à le voir comme un duo. Bon, là, il y aura du monde vendredi.
Je le vois comme un duo, bien sûr. Allez, on va divulguer quelque chose, ce petit secret. Je fais des chœurs aussi, c'est bon, on fait des chœurs.
Michel Mallory l'a dit tout à l'heure, vous chantez très bien, vous, ça vous fait sourire, voire rire quand vous entendez ça, vous bougez la tête un peu.
Oui, parce que j'ai...
Mais pourquoi ?
Comme tous les chanteurs, je n'aime pas m'entendre chanter, voilà. Jouer, ça ne me dérange pas. Ça
dépend, plaît. Thomas Brondin, il aime bien s'entendre chanter.
Mais Thomas Brondin, il a une belle voix, Thomas Brondin.
Il y a des chanteurs qui aiment bien s'entendre chanter.
Oui, je sais. Oui, il y en a beaucoup. J'en connais beaucoup.
Et vous n'aimez pas ?
J'aime pas trop. Après, on se croit qu'on s'habitue. C'est comme un nouveau morceau. Je sais pas, moi j'adore beaucoup. J'adore Francis Cabrel, par exemple, quand il sort un nouvel album. Les chansons, c'est difficile à les écouter. Puis après, on s'habitue. L'oreille, on s'habitue au phrasé, on s'habitue. Et puis après, bon, ça, c'est comme tout. Hein.
Voilà. Vous vous reconnaissez quand vous vous entendez à la guitare ?
Ah oui. Non, enfin, je réponds pour vous, mais...
Pas souvent.
Ah bon ?
Non, parce que souvent, c'est noyé dans l'accompagnement.
Non, mais seule, une guitare comme ça, vous
Des fois, oui, des fois, oui, des fois, non.
Vous la prendriez pour nous, la guitare ?
Bien sûr. Je ne refuse jamais ce que Marie Bondigny me demande de faire.
Parce que comme un miracle, elle est posée juste à côté de vous, c'est celle de Marc-André à Castellane.
Qui a eu la gentillesse de
vous la prêter.
Bien sûr.
C'est dommage que nous n'ayons pas la jolie voix de Thomas.
C'est dommage.
Avec vous. Qu'est-ce que vous pourriez jouer ?
Qu'est-ce que je peux jouer ? Je vais peut-être vous jouer... Je vais l'accorder d'abord. Hein.
Vous voulez dire que la guitare de Marc-André à Castellane n'est pas accordée ?
C'est normal parce que la température du studio a changé depuis que la clim a été mise en route.
Ah, c'est ça, c'est pas Marc-André.
Et donc, forcément, elle s'est désaccordée.
C'est mon idole.
Je fais un appel.
Il est à l'écoute de tout.
Si pour ce garçon merveilleux qu'est Marc-André à Castellane, on pouvait lui trouver des t-shirts à sa taille, ce serait absolument formidable. Comme ça, lorsqu'il lève ses bras, on ne voit plus son nombril.
Vous ne voyez pas dévoiler.
Alors, qu'est-ce que vous allez...
Alors, un petit morceau du révérend Gary Davis.
Ah, plaît-il ?
Voilà, le révérend Gary Davis, qui était un
pasteur.
Un pasteur, je pense, oui. Mais c'était surtout un bluesman et un grand guitariste. Je crois qu'il est mort dans les années 60. Et ce morceau qui a été repris par Gigi Cale aussi. Cocaine Blues.
Ah oui.
Je ne sais plus si je m'en souviens. Oh... Mm-hmm.
beaucoup.
Marie et moi, on fait la foule en début.
Ah, Patrick Mattei, merci beaucoup. Merci.
C'est RCFM qui a cours.
Non, merci. Surpris, ben oui, pour vous écouter. Alors évidemment, on vous retrouve vendredi, le 19, sur la scène du Centre culturel de l'Albor, ou avec Marie-Ange Desrognes, Jean-Thomas Mallory, et puis sa compagne, Julia Jérôme, multi-instrumentiste et chanteuse, pour ce concert un peu spécial, Café-Concert. Je vous remercie d'avoir été là ce soir.
Merci pour votre invitation et puis pour la bonne humeur qui
règne dans ce
règne
studio.
Dans ce studio.
Il est toujours de bonne humeur.
Merci à Michel Mallory qui nous accompagnait en tout début d'émission. Merci à Thomas Bronzini qui m'a aidé à préparer cette émission. Merci à Marc-Andrea Castellani pour sa gentillesse, son talent et pour nous avoir prêté sa guitare.
Vous savez combien ça m'a coûté de ramener la guitare de
à Jean-Michel Fraticelli que je me traîne chaque mercredi à Doumé Mourad. Et puis un grand merci avec vraiment beaucoup, beaucoup d'affection à Patrick Mattei d'avoir été là ce soir.
Merci.
Et puis merci à Marie-Ange Geronimi qu'on retrouve dans The End Blues vendredi à l'Albor ou à Bastia.
À quelle heure ?
20h30.
Ah bon.
France Bleu RCFM.